BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommeret.
C'est le Machu Picchu de l'investissement, des idées qui traversent le temps et jusqu'à 18h. C'est chaque jour dans BFM Bourse. Bienvenue à tous, les idées de nos experts et en fil rouge. Antoine Larigauderie, rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Un petit peu de fraîcheur là, hein, cet après-midi, sur oui. tous les indices. On a plus 0,78% au compteur maintenant pour le CAC 40 qui a bien repassé les 8300 points, 8317. On se remet un peu du gros coup de mou d'hier, avec notamment la tech en renfort, plus 1,65 pour l'Euronext Tech Leaders. On est dans le vert du côté de Wall Street et là aussi la tech à la parole, plus 0,46% pour le Nasdaq, plus 0,24% pour le Dow Jones. Et le trio de tête du SBF 120, c'est le trio de tête du premier semestre sur l'ensemble de la Bourse de Paris. Soitec, ST Micro et Mersenne.
Une séance à l'image du semestre. Un rebond néanmoins timide en Europe après la forte baisse d'hier. Les SPI conducteurs sont en rendez-vous. Il se trouve que SK Hynix, qui s'introduira demain à Wall Street, attire énormément de demandes manifestement. SK Hynix devrait lever demain 28 milliards de dollars, ce qui en fera la plus importante intro en bourse jamais réalisée par une entreprise étrangère aux États-Unis. On va aussi anticiper ce rendez-vous. Et puis Ipsen, qui s'en sort bien. Des résultats positifs préliminaires. Les résultats positifs contre la migraine, pour réduire le nombre de jours de migraine pour les migraineux. Alors, c'est pas encore fait. On est sur des résultats encore une fois préliminaire, mais le titre gagne 1,7%. On va en parler. BFM Bourse sur toutes les batailles de marché et BFM Business au cœur de l'ensemble, l'actualité. On suit aussi, tiens, les annonces du gouvernement pour les agriculteurs. Un plan d'aide d'urgence, 145 millions d'euros pour les aider à acheter de l'engrais, alors que les cours continuent de flamber avec les tensions au Moyen-Orient et que 30% des engrais transitent par le détroit d'Ormuz. Le gouvernement veut encourager aussi à l'avenir la fabrication d'engrais sur le sol français pour gagner durablement en indépendance. Le marché de l'emploi en France se complique. Moins de CDI, plus de CDD. Autant de ruptures que d'embauches. 9% d'offres d'emploi en moins. C'est ce qui ressort des statistiques du premier trimestre du ministère du Travail. On en parlera tout à l'heure dans le 18-19 avec Stéphanie Collot notamment. Et puis chez Volkswagen aussi dans l'actu, la menace d'un conflit social majeur. Plusieurs manifestations aujourd'hui sont prévues autour des usines allemandes de Volkswagen. IG Metall dénonce des plans d'économie brutaux alors que la direction prépare une restructuration qui, c'est vrai, cette restructuration pourrait être la plus importante de l'histoire de l'industrie allemande. Là aussi, il en sera question dans 18-19. D'ici là, c'est BFM Bourse. Bienvenue à tous. On est à vos côtés, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Avec ce soir nos experts, Marie de Lessac pour Edmond Rothschild AM. Bonsoir Marie, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Et François Dossou, il est là lui aussi, directeur de la gestion action de Siena IM. Bonsoir François.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue également, ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Le CAC 40 gagne 0,8% aujourd'hui, le marché américain est en petite hausse. Et le Nasdaq notamment gagne 0,5%. On voit les acteurs, les semi-conducteurs repartir de l'avant avec demain l'introduction en bourse attendue de SK Hynix qui sera la plus importante sans doute d'une entreprise étrangère sur le marché américain parce que la demande est très très forte, il devrait arriver à lever 28 milliards de dollars. On a donc tous les semi-conducteurs qui progressent bien. SanDisk gagne 8%. On a Micron aussi qui progresse en ce moment de 7% à Wall Street. Et à Paris, STM gagne 6,5%. Alors que ces valeurs-là avaient souffert les jours précédents, est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase pour les différents segments de la tech, à savoir que les grands boulevards haussiers presque infinis durant plusieurs années, c'est fini, et on entre pour chacun des sous-segments dans quelque chose de beaucoup plus chaotique, une route un peu bump and dump, vous savez, chaoteuse avec des bosses, quoi. Et voilà, fini les autoroutes haussières sur la tech.
Alors probablement aussi la prise en compte des publications de résultats qui arrivent, hein, donc effectivement et un retour aux fondamentaux sur ces valeurs-là. Ceci étant, les performances qu'on a vues, elles sont aussi liées aux très bonnes publications de résultats qu'on avait eues au premier trimestre, auxquelles on s'attend sur le second trimestre. On a eu une respiration la semaine dernière. Enfin, depuis deux semaines. L'introduction à venir de demain redonne un peu de visibilité aussi et d'engouement positif sur ces valeurs.
Parce que SK Hynix, c'est les cartes mémoire, bien sûr, mais même les cartes mémoire avaient eu tendance à souffrir ces derniers jours. Samsung, super publication, les titres a quand même souffert. Et puis là, on voit qu'il y a quand même de la demande sur l'intro de SK Hynix à Wall Street. Donc voilà, on retrouve d'un coup le chemin haussier. C'est assez impressionnant de voir effectivement, François, que les sept magnifiques, ça fait un moment déjà que la route n'est plus en ligne droite permanente. Il y avait eu ensuite les semi-conducteurs, mais même pour eux, maintenant, la route n'est plus en ligne droite permanente, ni pour les cartes mémoire, puisqu'en début de semaine, elles ont beaucoup souffert.
Absolument.
Est-ce que la hausse, l'autoroute haussière, dans les différents segments tech, désormais, c'est du passé?
Enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez eu une approche qui était plutôt une approche top-down, qui consistait à acheter tout le secteur. Et là, effectivement, maintenant que le secteur est bien valorisé, il faut être un peu plus sélectif. Quand vous regardez Micron, notamment, qui n'est pas une valeur excessivement chère, les résultats étaient stratosphériques, ça n'a pas donné lieu à une remontée spectaculaire du titre, parce que vous avez des titres qui aujourd'hui commencent à intégrer des anticipations très très exigeantes, et surtout que vous commencez à vous poser la question de savoir quel est encore le potentiel pour ces entreprises de réviser leurs bénéfices à la hausse. Donc nous sommes plutôt sur une problématique de dérivée seconde, hein, à un moment donné, cette croissance forcément elle va se tasser, et donc les investisseurs sont à l'affût justement des inflexions sur ces fondamentaux. Et je vous parle pas en fait de la problématique des donneurs d'ordre qui eux en fait commencent justement à se poser la question de la rentabilité des investissements dans un secteur notamment des puces où les prix se sont littéralement envolés et si vous voulez en fait commencent à engendrer des questions autour du retour sur investissement, des investissements qui ont été faits notamment sur...
Vous pensez qu'on aura un début de réponse là-dessus lors des publications qui vont démarrer ? Un début de réponse au retour sur investissement ou ce ne sera toujours pas pour cette saison de publication ?
Ah, mais je pense que les résultats vont être encore stratosphériques.
Ouais.
Ils vont encore être très très importants.
Mais c'est déjà anticipé, quoi.
Oui, c'est déjà anticipé, ouais. C'est déjà dans les cours. Et quelle est la capacité encore pour ces entreprises de continuer à surprendre ? Parce que si vous voulez, le marché, il est à l'affût de la poursuite, la capacité pour ces entreprises à poursuivre sur la même tendance, alors qu'on sait que ce n'est pas possible. À un moment ou à un autre, il y aura bien une inflexion. Et donc, si vous voulez, là, nous sommes encore sur, si vous voulez, la recherche des premiers, si vous voulez, on est au début du cycle, ceux qui fournissent en fait les pelles, hein, et la question de savoir à quel moment le relais va se faire au niveau de l'efficacité, au niveau des gains de productivité. Là, ça risque d'être un peu plus diffus et ça risque de susciter davantage de questionnements de la part des investissements. Et donc, moi, je pense que le marché risque de revenir sur des niveaux un peu plus sélectifs, à savoir chercher, si vous voulez, faire plus. On sera plus dans une logique d'arbitrage que d'acheter de manière systématique tout ce qui appartient au secteur.
Vous pensez ça aussi sur la saison de publication à venir ?
En fait, je pense qu'il va être surtout important de regarder, ça va être le discours des entreprises, notamment, on parle des semi-conducteurs, mais de savoir justement où on en est dans ce cycle d'investissement. Alors, sur les hyperscalers, c'est savoir si elles vont continuer à investir et où on en est des capex, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à investir autant. Et au niveau des producteurs, savoir si ils ont toujours cette demande forte qui arrive, s'ils ont toujours besoin d'augmenter leur capacité de production, parce que pour l'instant il y a quand même un manque de production sur les puces, donc il y a toujours cette volonté d'augmenter les capacités de production qui tire aussi, qui leur permet de monter les prix. Donc c'est ce point d'inflexion qu'on cherche. Pour l'instant, je pense que c'est toujours sur une croissance, mais effectivement, la dérivée seconde et le point d'inflexion, le jour où on l'atteindra, amène. Et c'est pour ça aussi qu'on voit un peu plus de volatilité aujourd'hui sur tous ces segments-là de valeurs de technologie.
Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant des trimestres et des trimestres, on déplorait l'hyperconcentration des indices autour des sept magnifiques, par exemple. Mm-hmm. Puis on voit que même quand les sept magnifiques font plus grand-chose, les indices arrivent à monter. Les sept magnifiques, là, trade, on a vu cette statistique tout à l'heure, trade sur un niveau de discount record face au S&P en 10 ans. C'est le niveau de rabais des sept magnifiques le plus important en 10 ans. Ce qui n'a pas empêché les autres indices les indices de progresser. Donc même si le secteur qui est le plus primordial pour les indices fait moins bien que les indices, on voit que voilà, on y arrive.
Et ça, c'est plutôt encourageant parce que justement ça, alors on parle pas là de broadening, enfin de, parce que on est plutôt justement sur un phénomène de concentration sur d'autres valeurs, mais ça montre quand même que le marché est capable de progresser, même s'il y a une partie de la cote importante qui ne le fait pas. Juste un petit bémol, c'est que si on regarde depuis fin mai jusqu'à aujourd'hui, en fait, les marchés ne progressent plus. On est flat, enfin, il n'y a plus de progrès, il n'y a pas de progression des actions depuis fin mai jusqu'à aujourd'hui. Un petit peu le marché européen, mais le SP500 est plutôt en baisse, le Nasdaq est plutôt en baisse, les marchés émergents sont en baisse. Donc, ce changement de leadership, il se fait depuis quelques semaines quand même, et on est plutôt dans une stabilisation finalement avec plus de volatilité à la hausse comme à la baisse. Mais
oui, la semaine prochaine, c'est les banques américaines qui vont publier. C'est toujours très important. Ou qu'est-ce que vous regarderez le plus ? Quel secteur, à part la tech, dans les publications, Marie ?
Les banques américaines, oui, parce que ça donne quand même une idée de l'état de l'économie américaine, justement. Si elle délivre des prêts, comment est le consommateur, etc. Donc c'est quand même toujours intéressant de suivre les banques américaines, justement, pour avoir ce premier premier avis, ce premier retour concret sur...
Sachant qu'elles ont passé des stress tests tout récemment, qu'elles ont réussi haut la main, hein, les banques américaines, des stress tests dans un scénario de grande récession, un chômage qui montrait à 10% aux États-Unis. Toutes les grandes banques, plus de 30 grandes banques, ont passé ces stress tests. Alors, ce sera intéressant, effectivement, regardez ce qu'elles nous annoncent, en plus dans une phase de dérégulation de l'économie, quand même, par l'administration Trump. Vous, à part la tech, François, qu'est-ce que vous regarderez le plus? Quel segment du marché, quel secteur dans ces publications qui arrivent?
Alors, je pense que je regarderai plutôt les secteurs de l'économie réelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous passons d'une concentration à une autre. Et pour revenir sur le point précédemment, en fait, je ne suis pas sûr que le fait que nous passions d'un leadership des sept magnifiques à celui des semi-conducteurs qui, à eux seuls, justifient plus de 50% de la hausse. Enfin, vous avez l'exemple du marché taïwanais, du marché coréen, en fait, où vous avez des marchés qui sont, dont la hausse se résume à une poignée de valeurs. Non, c'est pas si rassurant que ça. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que la hausse de ces marchés est encore représentative de l'économie réelle. Et donc, moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt les biens de consommation. On a eu des résultats et la semaine dernière, on a eu quelques alertes déjà. Et donc, de savoir comment est-ce que les entreprises, elles font face à cette baisse de confiance du consommateur liée au fait que la guerre au Moyen-Orient a quand même mis énormément de stress sur la population, l'essentiel de la population américaine, à savoir la population aux revenus les plus faibles. Parce qu'on parle souvent de cet effet richesse lié quelque part lié à la hausse de Wall Street, mais malheureusement cette hausse ne profite pas à tout le monde, elle profite à une poignée
on le voit dans les résultats du jour. On a quelques publications aujourd'hui, on n'est pas encore entré dans la vraie saison, c'est la semaine prochaine, mais on a Pepsi par exemple qui a publié ses résultats. Le titre Pepsi à Wall Street perd 4% parce que Pepsi explique que en Amérique du Nord, dans toutes ces zones géographiques, eh bien l'impact de l'inflation sur la population est important et ils consomment moins. Voilà. On a Pepsi, on a Costco aussi, qui recule en ce moment. Donc, on est aussi dans la distribution, là, dans le grand public. Costco recule de 4,5% après sa publication. Qu'est-ce qu'il faut privilégier, là, pour la suite? Et on va rentrer aussi dans un instant dans les publications européennes. Du coup, Wall Street ou plutôt l'Europe? Alors, c'est la question un peu bateau, mais on sent que Wall Street, vous le disiez, plafonne, qu'en Europe, ça boue, mais pour l'instant, le couvercle n'a pas sauté. Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce qu'il faut privilégier, Marie?
Si on se met au niveau vraiment, j'allais dire, macro, donc pas entreprise par entreprise, et forcément dans le détail, probablement que la saison de publication de résultats, vraiment sur la saison, sera probablement meilleure aux États-Unis qu'en Europe. Déjà parce que aux États-Unis, c'est traditionnellement le cas. Ils publient au-dessus, les surprises sont positives et le secteur de la technologie est très important et pour le coup, il va délivrer des résultats importants. Donc vraiment sur cette période de publication, c'est plutôt favorable aux États-Unis. Après, si on prend un peu de distance et qu'on regarde un petit peu plus loin, pour le coup, effectivement, l'Europe est un peu dans le creux de la vague parce que les anticipations sont faibles, parce que là, avec la reprise des frappes en Iran, c'est l'Europe qui souffre le plus parce qu'on s'inquiète de la hausse éventuelle des prix du pétrole, on s'inquiète éventuellement de la hausse des taux en conséquence. C'est les taux européens qui ont le plus monté hier sur ces nouvelles-là. Et ça nous paraît un peu exagéré. Et donc, ça peut redonner un peu de souffle derrière à l'Europe dans cette perspective-là.
D'accord. François, l'Europe ou Wall Street?
Oui, pareil. Si vous voulez, nous considérons que l'Europe en a un peu plus sous le pied. L'Europe a été quand même particulièrement affectée par la crise au Moyen-Orient, avec des cours du pétrole, l'énergie, qui a quand même impacté la consommation. Donc, l'avantage de l'Europe, c'est aussi, pour faire simple, un marché plus diversifié, un marché en fait qui est plus connecté à l'économie réelle et sur lequel vous ne manquez pas tant que ça de leaders qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Je pense que l'Europe pourrait surprendre positivement parce que les attentes sont particulièrement faibles. Et les attentes faibles, en fait, s'exposent mécaniquement à des surprises positives. Donc, je reste quand même relativement constructif sur l'Europe.
Plutôt l'Europe. Alors, on va poursuivre nos échanges dans un instant et regarder quels seront les principaux enjeux de ce deuxième semestre politique, mais pas que. Vous nous direz ce que vous surveillerez particulièrement. On a beaucoup parlé des publications là, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres enjeux qui peuvent affecter les marchés, oui. On est à 18 minutes de la clôture là désormais, 17h17, et on entre dans la dernière ligne droite de cette séance où le CAC 40 gagne 0,9%. On accélère un peu à la hausse avec une détente aujourd'hui des cours du pétrole d'ailleurs, après la forte hausse d'hier. Le Brent redescend sous les $77. Les valeurs qui se disent à Paris. ST Microelectronics, on parlait de la tech hein, qui remonte avec la forte demande pour l'intro d'SKNX demain à Wall Street, ça soutient la tech. ST Microelectronics gagne 7%. Vous nous disiez Antoine, il y a d'autres valeurs liées aux semi-conducteurs qui aujourd'hui cartonnent et qu'il ne faut pas perdre de vue.
Oui, bah moi maintenant dans le secteur des semi-conducteurs, d'office j'inclus Mersenne. Hein. Ancien Carbone Lorraine, spécialiste des minéraux rares qui sont essentiels à la fabrication des semi-conducteurs, de l'industrie électrique aussi. Donc voilà. Mersenne, maintenant je l'intègre, je le mets avec ASML, avec STMicro, avec Infineon, avec Soitec.
Il gagne 5% en ce moment Mersenne, il y a Soitec aussi dans le segment qui gagne 7,6%. En repli, Thalès recule de 3%, c'est la lanterne rouge du CAC. On a aussi Total Energy avec les cours du pétrole qui reculent en ce moment d'1%. Marie de Lessac nous accompagne ainsi que François Dossou. Qu'est-ce que vous suivrez particulièrement au deuxième semestre, l'un et l'autre, des choses vraiment spécifiques à ce deuxième semestre qui arrive au-delà des publications, Marie?
Alors peut-être deux choses sont les banques centrales et les élections américaines, et éventuellement les élections françaises, mais ça c'est plus local pour le marché francophone.
Les élections américaines, c'est quoi les enjeux? Alors évidemment Donald Trump va essayer de pas perdre les deux chambres. Enfin, quels seraient les scénarios en fonction de ce qui se prépare?
En fait, je pense que l'enjeu il est plus en amont et justement les conséquences que ça peut avoir sur l'attitude de Monsieur Trump pour éviter que ça soit un total fiasco. On parlait tout à l'heure du consommateur américain avec cette fameuse courbe en K où les très riches profitent, mais l'effet richesse finalement ne profite qu'aux très riches et pas au reste qui représente à peu près 80% des consommateurs. Donc ça, c'est effectivement un enjeu pour Monsieur Trump et qui selon nous met quand même un peu retire un peu de risque sur une reprise du conflit au Moyen-Orient, une reprise réelle en fait, parce que effectivement ça.
Oui, mais une fois que les mi-termes seront passés, qu'est-ce qu'il aura à perdre à relancer le conflit éventuellement? Parce qu'il n'y aura plus d'enjeu électoral pour Donald Trump. Par contre, il y en aura.
Alors,
pour les
républicains. Alors, ça lui aura laissé le temps d'avancer dans la négociation quand même, on espère. Oui. Donc, peut-être que d'ici là, ils auront quand même trouvé, je sais pas si c'est un accord, mais un modus operandi. Ça laisse en tout cas un peu plus de temps pour essayer de faire avancer les négociations et donc je pense que ça c'est quelque chose d'assez important pour les marchés. Et la deuxième chose, les banques centrales, parce qu'en fait quand on regarde, et surtout la Fed, en fait, elle est vraiment entre deux positions. Elle aurait tout à fait les moyens de remonter les taux comme de ne pas le faire. Mm-hmm. Et donc ça va être une vraie question pour les marchés financiers. Et anticiper cela en regardant les chiffres d'inflation, je pense que ça va être assez crucial sur ce second semestre.
Oui. Donc la Fed, deuxième semestre, les premières décisions hors statu quo monétaire de Kevin Warsh, si effectivement à un moment la Fed sort de son statu quo, et les élections de mi-terme. François, qu'est-ce que vous suivrez particulièrement, vous, dans ce deuxième semestre? Il y a ces éléments, bien sûr, incontournables, mais est-ce que vous en voyez d'autres?
Alors moi, je pense qu'il faudrait suivre quand même les taux. Les taux à long terme, hein, parce que là aujourd'hui nous constatons que malgré le fait que le pétrole soit revenu, je rappelle qu'avant-hier encore le pétrole était revenu quasiment au niveau d'avant crise, et les taux longs qui sont censés refléter en fait sans doute une activité économique qui est robuste aux États-Unis mais qui l'est moins en Europe qui intègre aussi des anticipations d'inflation, ne sont pas revenus au niveau d'avant crise. Mm-hmm. Donc si vous voulez, quand vous avez un marché qui en plus aujourd'hui est plutôt correctement valorisé, tiré par des valeurs de croissance qui sont plutôt chères et qui sont désormais à la recherche de financement, hein, parce que jusqu'à présent, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les 7 magnifiques ne montent plus, elles regorgeaient de cash. Et désormais, en fait, elles sont aussi bien sur les marchés pour des émissions obligataires, mais aussi pour des recherches, pour une demande en capital. Donc, ça va être crucial de voir où vont les taux, parce que quelque part, des taux qui restent longs durablement, c'est bon pour les banques, mais c'est certainement pas une bonne nouvelle pour des entreprises qui ont besoin de se financer. Et comme d'habitude, en fait, on pourrait s'attendre à ce que, justement, le grain de sable sur la progression des marchés actions vienne, comme c'est souvent le cas des marchés obligataires qui deviendraient un peu plus inquiétants.
Traditionnellement, oui, sauf que les dernières fois que les marchés obligataires se sont tendus, ça n'a pas eu forcément énormément d'impact sur le marché actions. Oui. On a eu le sentiment parfois que ce mécanisme était cassé.
Oui, entre-temps, en fait, l'endettement a explosé. Entre-temps, les besoins en financement des entreprises ont augmenté. Et si vous voulez, les spreads de crédit qui rémunèrent justement en fait, cette prise de risque pour financer des entreprises, il est au plus bas. Mm-hmm. Donc, vous avez quand même un contexte de marché qui est radicalement différent de ce que nous avons connu au moment où, en fait, les marchés étaient un peu moins sensibles.
Oui.
Au niveau général des taux.
Avec des levées obligataires importantes attendues. Tout à l'heure, Yannick Lopez d'Ophi Invest AM nous disait l'Allemagne, par exemple, l'an prochain va encore augmenter ses levées de dettes, plus de 300 milliards, ce qui va faire pression sur nous, Français. On voit la dette française aussi continuer de progresser parce qu'il y a de plus en plus de demandes et on est de plus en plus concurrencé sur ce marché. Par ailleurs, on n'est pas les meilleurs élèves européens non plus. Il se trouve que notre question du jour sur notre fil X BFM Bourse et notre fil LinkedIn est la suivante. Si le 10 ans français franchissait les 4%, on y est presque, on est à 3,75 là. S'il franchissait les 4%, Marie, est-ce que ce serait juste de l'ordre du symbole ou peut-être le déclencheur d'un réveil politique ou de secousse financière? Ça ferait quoi un 10 ans français à 4% concrètement?
Alors, le réveil politique, aujourd'hui, en fait, il est assez contraint par la situation politique de la France. Hein. Donc, les taux se sont déjà tendus. L'écart de taux entre France et Allemagne, c'est quand même pas mal tendu et sur les dernières semaines. Mais c'est vrai que la situation politique actuelle en France, elle donne pas forcément d'objectifs très très positifs sur un resserrement fort de cet écart-là. Donc la négociation du budget cet automne va encore être compliquée.
Oui.
On voit qu'au niveau du déficit, ça s'annonce pas forcément comme prévu, comme attendu. Donc c'est clair que ça va amener des tensions et surtout qu'en période électorale, avant les élections l'année prochaine, c'est pas les meilleurs moments pour resserrer les budgets où on voit mal les candidats aux élections annoncer de forts contraintes budgétaires avant pour se faire élire.
Et si 10 ans français franchissaient les 4%, on est à 3,7 ce soir, donc on a un peu de marge, mais on n'en est pas très loin, ça peut aller vite. Est-ce qu'on peut imaginer que la BCE ferait quelque chose ou ben non, parce que cette trajectoire française, elle est franco-française. Autant il y a quelques années, il y avait eu plein de pays, l'Europe du Sud, vous savez, les PIGS même, on les appelait de façon très méprisante. C'était un ensemble de pays qui pouvaient effectivement déséquilibrer la zone euro, et là, la BCE a ouvert un quantitative easing. Autant si c'était que la France, est-ce qu'elle ouvrirait un quantitative easing?
Aujourd'hui, je pense effectivement très franco-français. On le voit, les autres pays, l'Espagne, l'Italie, tout ça se comporte mieux aujourd'hui. Donc,
oui.
Je ne suis pas sûre que ça entraînera peut-être une réaction de marché, ça entraînera des discours, ça c'est sûr.
Donc pour vous, 4%, ça ne changera rien en fait. Un 10 ans français à 4%, ça fera mal, bien sûr, aux finances françaises, mais ça n'ira pas plus loin et ça ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Vous n'imaginez pas un effet Liz-Truss, un emballement, on a franchi les 4%, ça dérive trop. Non,
parce
qu'il y a l'euro, parce que...
Pas sûr que ça ait ces conséquences-là. En revanche, ça fera. Techniquement, ça peut effectivement faire monter un petit peu, mais je pense pas que ça entraîne un changement politique majeur. La France, on n'a pas forcément les moyens, pas vraiment les moyens aujourd'hui, avec sa situation politique, de faire des changements majeurs.
François, si le 10 ans français franchissait les 4%, ça changerait quoi?
Je partage l'avis. Politiquement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. D'un point de vue financier, je pense que l'impact ne sera pas très important non plus. Financier au sens marché financier, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de demandes. C'est plutôt à moyen terme. La problématique, elle est plutôt que quand vous empruntez pour payer vos dettes et que vous n'êtes pas dans une logique d'investissement, forcément, en fait, vous accumulez du retard par rapport à vos compétiteurs, vous accumulez du retard et vous êtes dans une situation où vous ne pourrez pas réagir lors de la prochaine crise. Ce qui est un peu surprenant en France aujourd'hui, c'est que nous avons un régime de crise alors que nous sommes plutôt dans un régime normal pour l'ensemble des pays. Et donc, nos indicateurs n'incitent pas en fait à être confiants en cas de crise.
Et c'est un peu comme le réchauffement climatique, pardon pour la comparaison, mais il faut s'habituer à des températures qui montent. L'hiver, il neige de moins en moins en plaine. Voilà, c'est le new normal. Et puis l'été, bah, on voit cet été, c'est quand même très spectaculaire en Europe. Voilà, c'est un peu pareil sur le marché obligataire. C'est-à-dire que l'étiage, les niveaux de taux moyens, les niveaux de référence seront de toute façon de plus en plus hauts.
Oui, absolument. Pour des raisons aussi que nous pouvons expliquer, soit d'un point de vue démographique, pour des raisons aussi de financement de la transition énergétique. Donc vous avez aussi le vieillissement de la population, parce que de quelque part, vous avez de moins en moins d'entrepreneurs, vous avez de plus en plus de besoins en santé, en soins, et avec une capacité d'innovation qui mécaniquement a tendance à se réduire et donc à réduire les gains de productivité. On pourrait être rattrapé et sauvé par l'IA, mais encore faudrait-il que nous puissions investir pour en tirer les fruits.
Oui, l'IA dont Kevin Warsh pensait qu'elle serait désinflationniste, quand on regarde les minutes de la Fed d'hier soir, on se dit qu'elle a l'air, l'IA, d'être plutôt inflationniste à ce stade. Dans les minutes, elle est citée parmi les causes inflationnistes. Alors voilà, est-ce que pareil, on parlait des nouveaux repères sur le marché obligataire, est-ce que quelque part les banques centrales ne devraient pas acter que l'inflation sera à l'avenir, pour les raisons que vous venez de citer François, plus élevée, que la cible de 2% doit être modifiée, pourquoi pas modifiée, ajustée à 3%. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ça, d'après vous, Marie?
Je pense pas qu'elles feront ça. Il y a d'autres moyens.
Parce
d'autres
que c'est
moyens.
Jamais le bon
non,
moment.
Mais c'est vrai que
Gilles Mouek, tout à l'heure, était avec nous, chef économiste d'AXA, et nous disait que c'est jamais le bon moment de changer sa cible d'inflation. C'est jamais le bon moment.
Non, effectivement, c'est pas l'idée de changer la cible d'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA est plutôt dans une phase inflationniste, qu'on parlait notamment du prix des puces qui augmente largement. Ça reste une petite partie des composants des coûts, mais on le voit. Apple qui monte le prix de tous ses produits, c'est aussi à cause de ça. Il y a une petite manipulation qui peut être faite ou qui va même être faite, c'est un changement méthodologique de la Fed sur le calcul justement des composantes du CPI sur tout ce qui est lié à l'IA. Et ça mécaniquement, ça va réduire un tout petit peu la partie technologique du core CPI. Et ce sera à partir du mois de septembre entre 5 et 10 BP. Ils vont aussi faire un changement sur la partie portfolio management qui est très liée au marché financier, donc un peu plus volatile. Et là, pareil, ça va aussi diminuer un peu le core APC d'une dizaine de BP. Donc pas de changement fondamental sur l'objectif d'inflation, mais plus des petits changements de calcul pour intégrer ces nouvelles données.
Et puis, pendant ce temps, des réveils qu'on espérait et qui parfois se manifestent, celui de l'Allemagne. On a eu des chiffres allemands ce matin. Les exportations allemandes ont augmenté au mois de mai à leur plus haut depuis 2022. On a eu en début de semaine la production industrielle allemande aussi qui se reprend au mois de mai. Les carnets de commandes sont de mieux en mieux orientés. Que se passe-t-il en Allemagne, Marie?
Alors, sur ces chiffres en particulier... Oui. Ça vient probablement de commandes supplémentaires liées aussi à la guerre pour éviter des ruptures d'approvisionnement ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir un peu de technique, de considération technique dans ces chiffres de rebond. Néanmoins, il y a quand même un fond qui se, enfin là aussi, je pense que l'Allemagne, elle est vraiment dans le creux et on voit plutôt une amélioration. Là où il y a eu de la déception, c'est que après l'élection de Monsieur Merz, on pensait que les dépenses allaient arriver plus rapidement que ça n'est le cas actuellement, mais on voit quand même des dépenses qui se mettent en place, un déficit plus important qu'il ne l'était l'année dernière. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais effectivement ça prend beaucoup plus de temps. Les effets réels, notamment sur la défense ou les commandes de la défense, ça sera peut-être plutôt pour début 2027.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors le meilleur est à venir pour 2027.
Voilà, il y a quand même des choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus lent que les attentes des investisseurs et des marchés.
C'est sûr. En 2027, donc on aurait les premiers effets bénéfiques, mais vraiment là pour le coup des différents plans d'investissement allemands. Peut-être des baisses de taux de la BCE aussi, parce que le pétrole, on verra où on en est dans la guerre en Iran, mais les effets de base seront incroyablement positifs en 2027. Ce sera l'année d'embrassez-vous Folleville 2027 peut-être, François ?
Oui, je pense que l'Allemagne, compte tenu de son poids dans la zone euro et des sommes qui sont engagées pour le plan de relance sur la défense et l'infrastructure, en fait, ce sera un moteur pour la croissance européenne. Mais malheureusement, en fait, je partage l'avis que les bons chiffres de commandes sont sans doute liés à des achats de précaution pour anticiper, parce qu'il faut rappeler que c'est des chiffres de mai et juin, avant l'annonce du cessez-le-feu. Et donc, l'idée est de pouvoir accumuler des commandes avant de pouvoir rentrer dans un monde plus inflationniste, ont sans doute joué positivement dans ces commandes. Mais il faudra quand même pour l'Allemagne coupler ce plan de relance à des réformes structurelles, parce que l'Allemagne est quand même principalement concernée par, si vous voulez, la concurrence chinoise. Et donc, ça ne suffira quand même malheureusement pas d'un point de vue conjoncturel, de juste relancer...
Bon, à suivre, le CAC 40 gagne 0,9%, dans 3 minutes la clôture. Avant de vivre avec Antoine cette clôture, on entre dans la data room. La data room, pour prendre date avec le réel. Vous avez chacun, François, Marie, une minute pour nous livrer une data forte. Êtes-vous prêts ?
Oui.
Oui.
François, votre chiffre, on démarre avec vous. François, votre chiffre, 37 406 milliards de dollars.
Alors, c'est le montant des actifs investis sur les actifs européens. En fait, quelque part, c'est la valorisation des actifs du reste du monde sur les actifs américains. Ça inclut donc quoi ? Les actions, les obligations et aussi le monétaire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire en fait que le reste du monde finance les États-Unis à travers les achats d'actifs sur le marché américain. Donc ces achats d'actifs sont la principale source en fait de valorisation, parce que mécaniquement, quand vous allez investir, les non-résidents vont investir aux États-Unis, ils ont tendance à soutenir les valorisations. Les valorisations, elles, vont plutôt réduire le coût du capital, et ce coût du capital plus faible pour les entreprises américaines va se transformer en fait en capacité d'innovation, de financement de l'innovation. Et donc, si vous voulez, cette croissance-là, elle a tendance à transformer, à soutenir le marché américain, à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et donc à pouvoir rentrer dans une boucle qui est
positive, vertueuse. Très positive. Ouais, 37 000 milliards de dollars, j'arrondis, hein, c'est la valeur des titres américains détenus par les non-résidents à la fin du premier trimestre 2026. Ça fait beaucoup d'argent. On dit toujours la richesse de certains Américains grâce à la bourse. Oui, mais parfois aussi par les non-résidents, et ça peut bénéficier aux économies en dehors des États-Unis. Intéressante cette data. François, vous vous êtes livré à vous. Marie, votre chiffre, un peu plus de 75 millions d'onces d'or.
Oui, c'est le stock d'or de la Chine en juin 2026. Et en fait, la Chine a continué d'acheter de l'or. Elle a profité de la baisse pour renforcer ses réserves en or. Depuis le début de l'année, elle a acheté 1,3 million d'onces d'or. Donc, c'est assez important et c'est une tendance assez globale. Regardez une étude du World Gold Council qui fait une interview tous les ans auprès des banques centrales pour voir leur attitude auprès de l'or. Et 84% des banques centrales ont l'intention d'augmenter leurs réserves d'or dans les 5 prochaines années. Alors, ça peut faire loin. Si on regarde à plus court terme, c'est 45% qui ont l'intention d'acheter de l'or sur 12 mois. Mm-hmm. Et c'est en hausse par rapport à l'année dernière. Mm-hmm. Donc, l'or a pas mal baissé cette année, hein, à peu près 20%. Et effectivement, ça peut être intéressant de le regarder. Il y a eu beaucoup de sorties, hein, parce qu'en face de ça, donc on a la Chine qui achète, mais les ETF, l'ensemble des ETF, ça c'est Bloomberg qui nous le dit, ont baissé leur stock d'or de 2,5 millions d'onces. Donc, c'est encore plus. Mais voilà, c'est un actif qu'on peut regarder à nouveau.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Et à propos de l'or, quand même, cette semaine, Hong Kong aura lancé sa bourse de l'or aussi pour échapper à l'hégémonie américaine et anglaise sur le marché de l'or. Voilà, et puis faire de l'or aussi un vecteur d'internationalisation du renminbi, de sa devise, le yuan. Ça aussi, ça aura marqué la semaine. On en parlait avec Frédéric Rosier dans la Bourse Cash. Très intéressant à retrouver la Bourse Cash en replay. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Dans un instant, c'est la clôture. L'avant-dernière de la semaine, on va la vivre avec Antoine dans 2 minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine, rebonsoir Antoine.
Et rebonsoir.
Comment termine-t-on ce soir en Europe ?
Pas trop mal, hein. Plus 0,9% termine au plus haut de la séance. Hein. 8326 points avec un très net regain sur tout ce qui est tech, puisque l'Euronext Tech Leaders gagne 1,7%. On va peut-être regarder un petit peu les volumes aussi, voir si ça a été une séance suivie du côté des investisseurs. Ouais, non, les volumes sont pas trop là. Hein. 3,5 milliards d'euros d'actions négociées, c'est quand même en dessous des moyennes de ces derniers temps. Mais enfin, on va pas bouder notre plaisir. Le marché a quand même bien réagi après la séance quand même très compliquée d'hier. L'Eurostock 50 lui gagne 1,28%. À noter que les deux facteurs qu'on attendait, c'était une détente sur les taux, une détente sur le pétrole. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné. 76,80 $ pour le Brent de mer du Nord. Le 10 ans américain qui recule sous les 4,6% à 4,55 et 3,75 pour la dette française de même échéance. En tête des progressions du CAC 40, donc la tech, avec le trio, les meilleurs performeurs du premier semestre du SBF 120. STMicro plus 7,16, plus 5,86 pour Soitec et Mersen plus 3,95. Donc encore une fois, tous les titres liés à la tech, aux semi-conducteurs les plus exposés à Paris. On a le secteur du luxe qui s'est bien réveillé. Hermès a gagné 3,4% à 1 624 €. Et Kering plus 2,57 à 245,80 €. À noter quand même des dégagements sur le secteur de la défense. Thales a signé la plus forte baisse du CAC à moins 2,95 €, 226,80 €. On a Exosens aussi moins 2,8 €, 57,65 €. Mais on a aussi les grands disruptés. Capgemini signe une baisse de 2% à 89 €. On est peut-être reparti sur une séquence où la tech hard va monter et où les logiciels vont encore souffrir.
Romain est avec nous, Romain Daubry pour Bourse Direct depuis ses bureaux. Romain, cette séance donc plutôt favorable, on n'efface pas la perte d'hier sur le CAC 40, mais on reprend le chemin de la hausse avec une détente des cours du pétrole qui fait du bien, c'est vrai, 77 $ ce soir le Brent. Comment vous voyez cette impulsion qu'offre le marché européen pour la suite?
La bonne nouvelle, c'est qu'on préserve des niveaux d'alerte qu'on avait testé sur l'indice Eurostock, 6 202 points, sur l'indice Nasdaq 100, 28 950 points, et sur l'indice CAC 40, 8 259 points. Donc ça, c'est plutôt bien. En revanche, le rebond n'est pas à la mesure de la baisse d'hier. Antoine le disait, des volumes de 3,5 milliards contre 5 milliards hier. Et donc, en plus, on a enregistré un petit peu de pression baissière en Europe, pas sur les indices américains, mais au cours de la baisse d'hier, un peu de pression baissière. Donc attention à voir comment on va se comporter dans les jours qui viennent. C'est plutôt un marché qui est drivé par le trading, la spéculation, que par le fond. On est beaucoup dans une situation d'attente, puisque c'est la saison des publications qui débutera la semaine prochaine. Et manifestement, c'est ce que les opérateurs attendent pour prendre vraiment des décisions, notamment en Europe.
Vous restez avec nous, Romain. On va refaire la séance, justement, essayer d'ouvrir de nouvelles pistes d'investissement pour la suite avec nos experts. C'est BFM Bourse pour encore 14 minutes. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Ils sont là, nos experts. Mathias Desmarais, responsable de l'activité action Dodo BHF. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Bienvenue. Alexis Albert aussi nous accompagne, gérant DNCA. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue également. D'abord les marchés au global, comment vous les sentez là dans la phase actuelle, Alexis, avant les publications qui vont démarrer?
On sent qu'il y a, il y a une certaine nervosité, il y a une rotation qui est extrêmement violente d'une journée sur l'autre. On parlait de la défense, on parlait de la tech. On voit qu'on a quand même des mouvements vraiment, vraiment, vraiment violents de rotation d'une journée sur l'autre. Je pense que on est un petit peu partagé entre finalement une bourse qui a été tirée quasiment que par les semi-conducteurs depuis le début de l'année, principalement par ce secteur, avec des perspectives de croissance qui sont fortes. Donc, un petit peu de nervosité sur ce secteur. À l'inverse, on a tout un tas de secteurs qui étaient impactés par l'Iran, qui ont du mal à rebondir. Là, on voyait encore Saint-Gobain aujourd'hui, qui est encore dans la penalty box. On a parlé de Capgemini. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nervosité. Les résultats vont être très, très importants. Il y a des valorisations tendues sur certains secteurs. À l'inverse, il y a des valorisations extrêmement peu chères, mais qui n'attirent pas. Donc, on est vraiment... vraiment une nervosité sur le marché, je trouve.
Oui, vous le trouvez nerveux, ce marché. Ouais. C'est difficile, effectivement, de parler de ce marché, de narrer le marché en ce moment en suivant un fil rouge, en parlant d'un grand mouvement profond. Au contraire, on est vraiment sur une phase où ces grands mouvements de rupture, de disruption technologique, etc., qui avaient porté à la hausse, permis de nouveaux records il y a quelques mois, bah, tout ça, c'est beaucoup plus chaotique aujourd'hui. Tout ça se fait beaucoup moins qu'avant, en ligne droite. Vous savez, aux États-Unis, sur les routes, quand c'est un peu chaotique, on dit dump and pump ou pump and dump. Vous savez, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un peu ça désormais les marchés? Est-ce qu'on sort de ces grands boulevards haussiers, de ces grands boulevards faciles à lire, à décrire, pour entrer dans quelque chose de plus nerveux, de plus trouble, Mathias?
On est dans un environnement beaucoup plus troublé depuis le début de l'année, aussi avec les déclarations du président Trump, quand même, qui ont, d'un jour ou l'autre, on voit que finalement, il n'y a plus de cessez-le-feu,
oui,
ça repart.
Ça
après, voilà, il y a une thématique sur l'IA, et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, finalement, c'est trop cher. Regardez Samsung l'autre jour, qui fut le résultat exceptionnel et qui baisse. Et donc, effectivement, je pense qu'on a un peu perdu une certaine boussole sur le fond des histoires, et donc une nervosité avec les résultats qui arrivent, sur lesquels finalement on a assez peu de visibilité, d'une manière générale, avec les problématiques d'inflation, de contexte économique, géopolitique. Et donc, ça ne va pas être facile pour les 15 prochains jours.
Oui. Sur les publications, vous espérez quoi? De quel secteur particulièrement Où est-ce que, sur quelle poche du marché vous êtes le plus optimiste ou vous seriez prêt à mettre un peu plus qu'ailleurs?
Je pense que les financières, d'une manière générale, vont publier des résultats de bonne qualité. On a eu quand même un volume d'émissions primaires qui a été extrêmement fort. On a des volumes traités qui sont bons. On a un petit retour du crédit. Donc, je pense que les financières, ça va bien se passer. À l'inverse, je pense, je dis pas que ça va mal se passer, mais je pense que l'attention va à nouveau être complètement concentré sur les capex des hyperscalers, les capex des semi-conducteurs. Est-ce que c'est soutenable? Ça va quand même rester un driver. Surtout qu'en plus, on le voit, hein, les ramifications sont énormes. On se retrouve avec des Schneider, des Rexel, des Prysmian, des Nexans, tous ces sociétés-là, qui sont les acteurs de l'électrification, qui ne bougent quasiment que maintenant sur les semi-conducteurs. Que sur les semi-capex. Donc voilà, je pense que les financières, je suis pas trop inquiet. Le reste, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision très 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 claire.
Oui, les financières, c'est là où vous avez le plus de certitude aussi, Mathias, ou...
Oui, la sphère financière dans son ensemble, oui, peut paraître un bon pari. Je pense que certaines sociétés aussi des télécoms, finalement, qui est un secteur qui est plutôt pas mal performé, qui devrait bien s'en sortir. Et après, je pense que ça va être très très compagnie spécifique dans des secteurs comme la consommation, même sur l'industrie. On a vu, il y a tellement de poches dans l'industrie, effectivement, Schneider, probablement bien, Saint-Gobain, à voir avec le contexte. Et après, il faut juste savoir où va être la déviation par rapport à ce qui est attendu et aux craintes qu'on pouvait avoir aussi par rapport à l'impact de la guerre en Iran et du ralentissement économique. Et en fait, c'est surtout ce delta-là qui psychologiquement peut jouer, je pense.
Les valeurs qui se distinguent ce soir, Ipsen a gagné 1,7%, des résultats d'études positifs pour le traitement de la migraine. Manifestement, son traitement Dysport, c'est son nom, permettrait de réduire le nombre de jours de migraine pour les migraineux. Et donc, alors c'est un supermarché, enfin c'est un magnifique marché, immense, il y a beaucoup de migraineux qui seraient ravis effectivement qu'Ipsen réussisse sur ce... Oui, c'est pas un supermarché, c'était très maladroit.
J'ai réalisé à l'instant.
Oui. Voilà. Et voilà, ce serait bien pour tout le monde, effectivement, qu'ils avancent là-dessus, Ipsen. Plus 1,6 ce soir, ça veut dire qu'on achète le truc, mais on n'est pas non plus super enthousiaste. Pourquoi cette retenue du marché?
Alors sur Ipsen, je pense qu'effectivement c'était un des produits qui est attendu. Ils ont trois gros produits, hein, qui sont attendus. Donc il y avait celui-là sur la migraine et deux autres plutôt sur les maladies rares. Et effectivement, c'était un relais de croissance. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vu de manière positivement. Après, nous on est un peu plus prudent parce que le titre a quand même déjà pas mal performé. On aura des résultats le 30 juillet qui vont être très solides pour le coup et de bonne facture dans la suite du premier trimestre. Après, faut faire attention qu'il y a deux produits un peu phares qui vont être beaucoup plus concurrencés notamment par des génériques en T3 et au T4, et c'est peut-être un peu la zone d'incertitude qu'on aurait. Donc à ce stade, moi je pense que c'est plutôt bien valorisé à très court terme, bon résultat, mais ensuite quelques inquiétudes sur le deuxième semestre.
Romain est avec nous. Ipsen, comment vous sentez ce titre graphiquement, Romain?
Bien, on avait indiqué une impulsion haussière et une réactivation de la dynamique au mois de janvier. La cible idéale, c'était 169. On a atteint ce niveau et c'est quasiment le cours auquel on clôture ce soir. Alors, si on arrive à déborder cette cible, eh bien effectivement, on peut aller chercher des extensions en direction de 189. Mais le momentum semble un peu en panne pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau-là. Le premier support important, c'est 148.
Airbus, faut qu'on dise un mot d'Airbus aussi, qui aura aussi reculé aujourd'hui, alors qu'Airbus, Alexis, nous annonce que d'ici 2045, dont à peine dans moins de 20 ans, hein, la flotte mondiale d'avions aura doublé. Et Airbus a quand même reculé. Alors déjà, une flotte d'avions qui double, comment vous regardez? Et puis surtout Airbus au milieu de tout ça.
Alors pourquoi elle a reculé? Je pense qu'elle a été prise dans le sell-off qu'on a vu aujourd'hui des valeurs de la défense, même si c'est pas le gros de son business, ça joue quand même un petit peu.
Oui.
Finalement, si
on voit Thales aussi qui perd 3%.
Voilà. Donc si on voit que Thales perd 3, Airbus est en très légère baisse, je pense que c'est peut-être la proportion de son business de défense qui l'emporte en territoire négatif. Sur la flotte, je crois que on a maintenant depuis moi je pense au moins une dizaine d'années la certitude qu'effectivement il y a un potentiel sur ce segment de l'aviation civile qui est considérable. Avec notamment les pays émergents, mais pas que, avec le renouvellement de la flotte actuelle, avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Amérique du Sud. Donc c'est évident que sur ce segment, on a un potentiel qui est considérable. Et ce qui est fantastique avec ce secteur, bon déjà c'est qu'il y a beaucoup de sociétés françaises, ça c'est quand même déjà une bonne nouvelle.
Oui.
La deuxième chose, c'est c'est que si on prend l'aviation civile, si on prend la motorisation civile, on est quasiment à chaque fois en duopole ou dans le pire des cas en triopole. Donc c'est quand même, c'est des business sains, c'est des business sur lesquels on a une visibilité extrêmement longue. Moi, j'ai personnellement une petite préférence pour les motoristes parce que j'aime le business de maintenance qui donne une récurrence des revenus. Mais c'est quand même, c'est un secteur fantastique, faut reconnaître, hein, l'aéronautique civile.
Mathias, Airbus. Il recule, c'est vrai que le secteur de la défense est dans une moindre mesure.
Oui, et puis...
On perd que 0,4 ce soir.
On perd que 0,4. Après, effectivement, les carnets de commandes chez Airbus sont pleins quand même pendant 10 ans.
Oui.
Donc voilà, on est bien. Je pense que peut-être aussi quelques inquiétudes liées à ce qui se passe sur CFM, Pratt & Whitney, qui devraient comme se résorber. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'ils vont dépasser finalement leurs objectifs de livraison d'avions. Et c'est vrai que à la fin du S1, quand ils l'ont annoncé, on pouvait se dire, bon, oui, ça semble quand même assez ambitieux, même si le groupe se veut rassurant sur l'accélération des cadences qu'on a vu au mois de juin. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'entre le développement du long courrier et finalement la résolution des problèmes, notamment sur les A320, bah, finalement, à partir de 2028, vous avez quand même une histoire qui est très dérisquée en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité, avec une très forte génération de cash, avec 20% de croissance des bénéfices par action par an. Donc, c'est vrai que ça fait partie des très belles valeurs à garder dans un portefeuille. Pour le coup, sans aucun problème.
Donc on la garde Airbus hein, de deux côtés, même si de votre côté, vous préférez quand même les
motoristes.
Les motoristes, ouais. Romain, Airbus, comment vous la sentez cette valeur graphiquement ?
Toujours haussier, effectivement, oui. Depuis qu'on a débordé ce niveau de 196,80. On le teste ce soir en clôture, mais c'est l'épaisseur du trait. Tant qu'on est au-delà de ce niveau de support, la cible, c'est 238,40. Attention, sous 196,80, on invaliderait la structure de retournement qu'on a mise en place et qui s'est formée entre janvier et puis la fin du mois de juin.
Il y a aussi l'immobilier tiens, qu'on suit aujourd'hui avec cette publication de Kaufmann. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kaufmann. Alors, ils annoncent quoi ? Ils maintiennent des objectifs annuels avec un chiffre d'affaires au premier semestre 2026 de 500 millions d'euros, quasi stable. Ils maintiennent donc leur chiffre d'affaires. On va regarder ce qu'a fait cette valeur Kaufmann & Broad en clôture avec leur maintien des objectifs. C'est plus 0,8. Donc, on est du bon côté de la force sur Kaufmann & Broad. Est-ce qu'il faut continuer sur cette valeur ? Qui se jette à l'eau là-dessus ?
Allez, je vais y aller.
Allez. C'est l'immobilier, ça intéresse plein de gens.
Alors oui, bah, l'immobilier, ça fait longtemps qu'on n'en parle pas. Donc effectivement, sur l'année, on peut se dire que les objectifs sont pour une fois tenus, mais c'est stabilité du chiffre d'affaires, stabilité des marges. Non, ce que je retiens surtout de cette publication, c'est la légère hausse des réservations en volume, qui est pour le coup une très bonne performance par rapport au secteur. Et vous savez que le secteur reste compliqué. Après, nous, on est plutôt neutre pour deux raisons. Il y a une bonne résistance du groupe, notamment par rapport à son portefeuille produit. Donc ça, c'est très positif. Après, on est quand même maintenant d'une élection présidentielle. C'est de la promotion immobilière. Le secteur est pas forcément sorti de l'auberge, même si effectivement tout le débat autour du statut du bailleur privé pourrait être positif pour le secteur. Mais je trouve que c'est un peu trop tôt. Personnellement, pour revenir sur la promotion immobilière en France, il y a un peu trop d'incertitudes, je trouve.
Oui, lesquelles ?
Bah, l'environnement économique,
oui,
voilà, les élections présidentielles, parce que pour le coup, je pense que tout le monde va vouloir s'emparer du sujet logement, mais entre s'en emparer depuis longtemps et y arriver. Après, les réservations aussi, on voit quand même que les prix de l'immobilier ont un impact. Les taux d'intérêt élevés sont plutôt défavorables pour ce marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même quelques incertitudes. Voilà. Même si, encore une fois, les résultats sont plutôt de bonne facture.
Ouais, je sens pas emballé du tout, effectivement. 24,40 €. Et puis Alexis non plus. Hein, j'ai même pas pris le temps de regarder Kaufmann, c'est même pas la peine, quoi. Bon, en tout cas, le titre a gagné 0,8% en clôture. On vous rappelle la clôture de ce CAC 40 à plus 0,9, 8326 points. Alors, c'est quoi votre pépite, Alexis, du coup, là? Indépendamment de l'actu du jour.
Alors voilà, justement, elle est complètement indépendante de l'actu du jour. C'est pour ça que c'est ma pépite.
C'est une pépite L'Automatica. Libre.
Ouais. L'Automatica, une société italienne. Le leader italien de tout ce qui est opérateur de jeux, loterie. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est une société qui est faiblement valorisée. Donc ça, c'est quand même un élément positif, puisqu'on a un potentiel de revalorisation qui est non négligeable. La deuxième chose, c'est que c'est une société qui nous met complètement à l'abri de toutes les déclarations qu'on peut avoir du président Trump. Il n'y a pas de problématique tarif, il n'y a pas de problématique liée à l'Iran. C'est 100% domestique. L'intégralité ou la quasi-intégralité du business est réalisée en Italie, donc on n'a pas de multi-zone. C'est une société qui est extrêmement bien gérée et c'est une société qui affiche une croissance, on va dire, entre le milieu à un chiffre, c'est comme ça qu'on dit, donc une croissance de mid-single digit, c'est une croissance récurrente, régulière, une belle rentabilité, une valorisation mesurée. Le seul, à mon avis, élément qui retient un petit peu un re-rating, un relèvement de valorisation plus massif en ce moment, c'est tous les sites de paris prédictifs. Alors le plus connu d'entre eux étant Polymarket, qui pèse un petit peu sur le sentiment des opérateurs de jeu. Cela dit, je pense que d'ici à ce que l'Europe autorise de façon, on va dire, massive les joueurs européens et les joueurs italiens et les joueurs français à utiliser Polymarket, je pense qu'on a quand même de quoi, on a un petit peu de temps, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va continuer quand même de protéger le consommateur, de protéger le joueur. Donc j'ai du mal à penser que Polymarket devienne un acteur majeur en Italie ou dans un autre pays européen.
L'Automatica.
L'Automatica, voilà. Exactement.
Éligible au PEA.
Éligible au PEA.
Pareil, pouvez-vous lâcher librement une pépite, valeur dans laquelle vous croyez, quelle que soit l'actu et la tendance de marché.
Alors, on parlait des hyperscalers et des centaines de milliards investis dans l'IA. Et ben, moi, je me rappelle de la fable de La Fontaine entre le bœuf et la grenouille. Donc, je vais vous parler d'Infotel, qui est une société qui fait près de 300 millions de capitalisation boursière, qui est une société de services informatiques et un éditeur de logiciels qui vise 500 millions de chiffre d'affaires à horizon 2030. Et c'est une très très belle société qui est très implantée en France, donc 90% de l'activité, donc pour le coup le cocorico, avec des clients tier 1, notamment dans les services financiers comme BNP, Banque de France, BPCE. Et donc c'est une très belle société qui a toujours cru 2 à 3 points plus vite que le marché. Et donc cette année, les perspectives, malgré l'environnement économique, restent plutôt solides, avec 5% de croissance. On a une très bonne rentabilité de par l'activité logicielle qui est distribuée en fait par IBM, donc le géant américain, donc sur lequel touche des royalties. Et en termes de sécurité, il faut savoir quand même que la trésorerie nette de la société représente quasiment 40% de la capitalisation boursière. Donc pour le coup, j'ai une très très belle valeur avec un bon rendement. Et pour finir, la valorisation est très faible. On est à 5 fois le résultat d'exploitation.
Infotel, donc. Alors il y a match. Romain est avec nous, l'arbitre. Voilà, il y a deux pépites proposées là, Infotel et l'Automatica. Laquelle pour vous a le plus de potentiel, graphiquement?
Bien, c'est difficile hein, comme arbitrage, mais Infotel probablement. Elle est dans un trading range effectivement depuis maintenant plusieurs mois, hein, depuis le mois de mars 2025, donc plus d'un an, bloquée entre 32,95 et 41,60. Mais depuis le mois de mai, elle accumule au-delà de la médiane de ce trading range, au-delà de 38, donc on peut envisager une sortie par le haut. L'Automatica, c'est pas mal non plus, mais le titre a manifestement un gros vendeur à 25,42. Systématiquement, quand on regarde depuis le mois de mars dernier, le titre n'arrive pas à clôturer le mois au-dessus de ce niveau-là. Donc il faut vraiment déborder ce niveau en clôture mensuelle pour envisager une poursuite à la hausse pour l'Automatica.
Ben voilà, merci beaucoup pour vos pépites, messieurs. Mais il était nuancé quand même, hein, Romain. Il disait pas, il y a un gagnant, il y a un perdant. Il disait, c'est compliqué de faire ce match, mais pour voilà, il a joué le jeu. Merci donc. L'Automatica commence, Mathias.
Son côté suisse.
Ouais, exactement. Et merci beaucoup à Mathias Desmarais, donc Odo BHF, et Alexis Albert des NCA. Salut à Romain Daubry depuis Bourse Direct. Et Antoine, vous le retrouverez, Antoine, dans une poignée de secondes, fidèle au poste, pour débriefer la séance aux côtés de Stéphanie Collot dans 18-19. Le CAC ce soir gagne, oui, 0,9% supplémentaire. Après, enfin, 0,9% après la baisse d'hier de 2%. On récupère qu'une petite partie des gains. Bonne nouvelle, détente obligataire générale aujourd'hui en Europe. Le 10 ans français recule avec le 10 ans allemand, le 10 ans américain aussi recule. Le 10 ans français n'est plus qu'à 3,75. Plus qu'à, entre guillemets, bien sûr, on reste toujours dans l'orbite des 4%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.